les podcasts
de Blast.
Ça y est, Donald Trump est de retour aux affaires. Élu président des États-Unis pour la seconde fois, le milliardaire américain entrera en fonction le 20 janvier prochain. En attendant, il distille jour après jour les noms de celles et ceux qu'il a choisis pour diriger le pays à ses côtés et les mesures qu'il compte mettre en place. Du futur ministre de la Défense cerné par les scandales sexuels à l'ex-patronne du catch nommée ministre de l'Éducation nationale, la politique de Donald Trump s'annonce plus à droite que jamais. Racisme et mesures qui favorisent les plus riches, voici grosso modo ce à quoi on peut s'attendre de la part du 47e président des États-Unis. Alors, quelles conséquences pour la société américaine et le reste du monde, notamment à l'heure où un génocide est en cours à Gaza? Pour y répondre, je reçois Sylvie Laurent, historienne spécialiste des États-Unis et auteure de Capital et Race, publié aux éditions du Seuil. Bonjour Sylvie Laurent.
Bonjour.
Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes historienne spécialiste des États-Unis. Alors, on va commencer tout de suite avec cette victoire de Donald Trump. On a l'impression que ça n'a pas tellement surpris. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les démocrates n'ont pas joué le rôle qu'ils devaient jouer avec, on l'a vu, le désistement de Biden, la candidature un peu à l'arraché de Kamala Harris ? Ou est-ce que c'est parce qu'aux États-Unis, on adhère réellement aux idées de Donald Trump ?
Alors moi, je ne suis pas complètement sûre qu'on n'ait pas été surpris de la victoire de Donald Trump. Certainement, a posteriori, les gens se disent que voilà, il y avait une espèce de force inéluctable qui l'amenait à la victoire. En réalité, jusqu'au dernier moment, les démocrates ont pensé qu'ils allaient gagner. Ça a été sans doute leur grande erreur. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, l'adhésion à Donald Trump, elle est solide. Elle est profonde, mais elle touche la moitié de la population américaine. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une première élection en 2016 où ça se gagne à quelques dizaines, milliers de voix dans une poignée de comtés, à la victoire de la majorité du corps électoral. Petite victoire, c'est pas un raz-de-marée, mais c'est une victoire nette. Et la réponse est assez simplement un effondrement du soutien à la candidate démocrate et une abstention importante. Donc la politique étant une dynamique, il y a oui un socle solide pour Donald Trump et pour les républicains qui s'est solidifié au fur et à mesure des années, et moi je pense que c'est principalement depuis le Covid, on en reparlera, et simplement une fragilité qui s'est révélée du Parti démocrate et de la candidature de Kamala Harris, qui mérite aujourd'hui réflexion, et qu'on fasse un petit peu l'autopsie de ce qui s'est passé, et c'est certainement ce que la gauche américaine et le Parti démocrate, entendu comme centre-gauche, va s'atteler à faire dans les prochains mois et les prochaines années.
En quoi le Parti démocrate a pêché ? Ils n'étaient pas assez à gauche ?
Alors ça, c'est ce que disent les gens de la gauche du parti démocrate et un certain nombre d'intellectuels. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des signes qui n'ont pas été entendus par le Parti démocrate. Déjà, structurellement, le Parti démocrate est une institution problématique depuis des dizaines d'années, qui a tenté de rassembler la vieille tradition d'une population à la fois constitué des minorités, des progressistes, de la petite classe moyenne, de ce qu'il reste de la classe ouvrière syndiquée, avec l'essentiel de Wall Street, des grands donateurs, des gens qui soutiennent les interventions militaires à l'extérieur des États-Unis. Donc c'était déjà une espèce de coalition un petit peu informe dans laquelle la ligne était difficile à retrouver. Et puis ce qu'on sait par ailleurs, c'est que la campagne a eu une stratégie hypercentriste, consistant à penser que les menaces sur la démocratie, la défense du droit à l'avortement, l'hyper-diabolisation de Donald Trump allaient suffire à faire oublier la fragilisation économique, sociale, culturelle et politique de la population, le traumatisme du Covid, qui est toujours là et qui a été très largement sous-estimé, la blessure infligée à la crédibilité politique du Parti démocrate par un Joe Biden extrêmement vieillissant, impotent, n'étant plus à l'écoute, donnant l'image d'une faiblesse considérable.
Right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand,
from Germany, I mean from France, looked at me and said, said, you know, how long are you back for?
Et puis, une incohérence assez profonde. C'est-à-dire que les démocrates ont fait campagne sur la défense de la démocratie tout en soutenant à bout de bras l'effort militaire en soutien à Israël, au mépris des principes élémentaires de la démocratie et des droits de l'homme, qu'ils ont défendu un bilan qu'ils pensaient glorieux des performances économiques des États-Unis, alors que l'inflation sur l'alimentaire, sur les transports, sur l'énergie et sur le fait de se loger précarisait considérablement les Américains. Et enfin, ils ont pensé que n'offrir qu'un discours sur la grande Amérique qui naturellement offrirait la prospérité, la paix et le bonheur à chacun pouvait faire l'économie de mesures symboliques fortes pour des gens qui se demandaient pourquoi voter pour le Parti républicain, qu'il s'agisse des Noirs, qui attendent toujours une politique volontariste sur les questions de santé, de toxicomanie, d'incarcération. Des Hispaniques qui attendent toujours une mesure forte sur le salaire minimum, les conditions de travail et la reconnaissance de leurs particularités culturelles, et bien sûr d'un certain nombre de populations issues de classes ouvrières blanches qui, de plus en plus, depuis Ronald Reagan, hein, depuis les années 80, trouvent dans l'espèce de réparation culturelle et morale offerte par le Parti démocrate hyper patriotique, masculiniste et dans une espèce de volontarisme de réforme, une maison plus accueillante que le Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il y a au fur et à mesure des années un certain nombre de fragilités du Parti démocrate qui a été masquée par le phénomène Barack Obama, qui a remobilisé la population américaine et qui a fait du Parti démocrate quelque chose qui subitement redevenait pertinent. Et tout ça s'est tranquillement évanoui après le départ d'Obama en 2016, et le second souffle n'est pas venu. Il n'est pas venu de Joe Biden et il n'est pas venu de Kamala Harris.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points essentiels de la politique de Donald Trump? Et on dit qu'il est au Parti républicain, mais est-ce qu'on peut le qualifier d'extrême droite?
On peut sans aucun doute possible le qualifier d'extrême droite, et plus encore, on peut qualifier le Parti républicain de plus grand parti d'extrême droite des pays occidentaux. C'est quelque chose que j'écris et que je dis depuis maintenant plusieurs années et qui suscite toujours une espèce de scepticisme et de surprise de la part des gens qui lisent cela. Et pourtant, on a désormais des études faites par des organismes indépendants qui comparent les programmes d'un certain nombre de partis d'extrême droite partout dans le monde et qui ont simplement sur un point de vue de mesures politiques et de plateformes programmatiques situé le Parti républicain des États-Unis à la droite de l'AFD allemande aujourd'hui, juste pour vous donner un curseur du fait que le Parti républicain est non seulement un parti d'extrême droite, mais qu'il se situe dans la constellation des partis d'extrême droite à la droite du Rassemblement national, par exemple, à la droite de Nigel Farage ou d'un certain nombre de partis d'extrême droite nordiques ou scandinaves, et qu'il est très résolument dans une constellation plus Orban, AFD, quelque chose de véritablement réactionnaire dans son discours et dans sa politique.
Notamment sur les questions d'immigration.
Sur les questions d'immigration, sur les questions de démantèlement de l'État social, sur une posture anti-élite et sur une normalisation de la violence politique. Et peut-être qu'il est important de comprendre que la raison pour laquelle il faut saisir le progrès de Donald Trump et le fait qu'il soit devenu quelque chose de l'ordre de la normalité américaine, c'est que à la fois son discours de campagne, la ligne qu'il a tenue jusqu'à sa victoire et aujourd'hui ce qui se dessine avec la composition de son gouvernement, c'est d'une très grande cohérence. Il y a toujours ce problème avec Donald Trump, comme ça a pu être le cas avec Javier Milei en Argentine ou avec d'autres candidats comme ça un petit peu haut en couleur, c'est qu'on a tendance à les prendre pour des clowns, hein, mais la dimension du bouffon, du héros de carnaval, a une fonction extrêmement importante. C'est-à-dire que Donald Trump, oui, est une forme de parodie de ce que serait l'extrême droite, mais en réalité, derrière le spectacle, l'interprétation, les outrances et ce que on serait tenté de balayer d'un revers de la main, il y a une très grande cohérence politique, historique et qui va induire des transformations extrêmement importantes pour les États-Unis et qui aura des conséquences pour le reste du monde, l'Europe et l'ordre international de façon plus générale.
Alors vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, est-ce qu'on sait qui sont les électeurs qui votent pour Donald Trump ? C'est quoi ? C'est généralement les blancs de la classe ouvrière, les noirs, les latinos ?
Alors ça, c'est ce qu'on a beaucoup raconté. Comme en 2016, ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que c'est l'électeur médian américain qui a voté pour Donald Trump. C'est-à-dire, c'est plutôt les hommes, mais aussi la majorité des femmes, principalement blancs, principalement sans diplôme. Une fois qu'on a dit ça, on ne dit à peu près rien des spécificités, puisque 70% des Américains n'ont pas de diplôme, que 70% du corps électoral est composé de blancs, et que les hommes sont un tout petit peu de moins de la moitié du corps électoral. C'est-à-dire que, véritablement, c'est le centre de gravité. On cherche toujours à la marge quel serait ce petit électorat miraculeux que l'on pourrait, à qui on pourrait attribuer la victoire de Donald Trump. En réalité, Donald Trump, c'est vraiment le cœur, cette espèce d'espace central de l'Amérique qui s'est décalé vers la droite depuis des années, hein, c'est quelque chose que l'on voit depuis très longtemps, et qui là, depuis 2016, s'ancre à l'extrême droite. Cela étant dit, une fois de plus, par rapport à 2016, il y a une cristallisation, quelque chose comme une fossilisation de cette normalité de l'extrême droite américaine, avec plus de 60% des hommes blancs, plus de 53% des femmes blanches, 45% des hispaniques et, dans des proportions tout à fait marginales, un petit peu plus d'asiatiques et un tout petit peu plus d'hommes noirs. Mais vraiment, ça n'est pas ça, la grande masse de ce qui se passe. Ce sont principalement les gens de ce qu'on peut appeler la petite classe moyenne, la petite bourgeoisie dont le statut social est remis en cause, qui résolument se reconnaît dans un parti républicain qui est aujourd'hui ce parti d'extrême droite. Et la question est de savoir pourquoi.
Comme je l'ai dit en introduction, la composition de son futur gouvernement semble inquiéter. Elle est aussi un bon indicateur de la politique qu'il compte mener. Je prends l'exemple, on a par exemple Pete Hegseth, présentateur et commentateur sur la chaîne Fox News, qui est cerné par les histoires de scandales sexuels et qui a été choisi comme futur secrétaire de la Défense. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui et qu'est-ce que ça dit de la future politique de Donald Trump ?
Alors, peut-être... Avant tout, regardez les grandes masses, les grandes généralités, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près le casting, hein, on a l'ensemble des noms qui vont former ce gouvernement. Et à la fois, c'est un rassemblement un petit peu hétéroclite de tout ce qui a constitué la grande coalition qui a soutenu Donald Trump. Et en même temps, on peut dire qu'on y retrouve toutes les familles de l'extrême droite occidentale, on peut le dire, parce que l'extrême droite américaine est une métonymie de toutes les traditions d'extrême droite telles qu'elles se sont développées dans l'histoire. Et donc, il y a certains éléments saillants dans ce gouvernement qui sont pas mal incarnés, comme vous le disiez, par Pete Hegseth. D'une part, ce qui est tout à fait frappant quand on voit ce gouvernement, c'est que c'est une oligarchie. C'est-à-dire que c'est peut-être le gouvernement dans l'histoire des États-Unis qui compte le plus grand nombre de milliardaires.
On l'a vu, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, soutenait Donald Trump.
Alors, c'est le gouvernement le plus fortunier de l'histoire, parce que bien sûr, quand vous avez l'homme le plus riche du monde avec Elon Musk dans le gouvernement, ça fait pencher la balance, évidemment, du côté des très riches. Mais au-delà d'Elon Musk, le nombre de milliardaires est tout à fait surreprésentés. Et ce sont des gens qui, en plus, appartiennent à une espèce de lumpen hyper classe de capitalistes, puisque un très grand nombre d'entre eux ont été convaincus de fraude fiscale, de violation du droit du travail, de lutte contre la syndicalisation, etc.
Il y en a qui ont fait des séjours en prison, si je ne dis pas de bêtises.
Certains sont sortis de prison juste à temps pour pouvoir accepter leur Marocain. Donc il y a quelque chose de tout à fait frappant. On était il y a 5 minutes sur la question de savoir si les classes populaires avaient soutenu Trump. J'ai modéré, mais en même temps en reconnaissant qu'une population américaine très largement paupérisée avait été le socle qui avait fait la victoire de Donald Trump. On a cette espèce de chiasme entre une classe populaire qui soutient ce candidat et un président qui s'apprête à rentrer à la Maison-Blanche, qui forme le gouvernement, qui est un gouvernement de l'hyperclasse capitaliste. Et donc, il y a quelque chose dans cette articulation qui apparaît comme une contradiction, mais qui mérite quand même qu'on s'y arrête. Une surreprésentation dans ce gouvernement de prédateurs sexuels, d'hommes qui, on est à 6 membres de ce gouvernement, qui ont été, depuis Robert Kennedy jusqu'à Trump lui-même, de Elon Musk jusqu'à Pete Hegseth, y compris ministre de l'Éducation et sous le coup d'une plainte pour des mauvais traitements sur un de ses employés qui était d'ordre sexuel. Donc il y a quelque chose qui se joue aussi sur le renforcement de cette idée selon laquelle un masculinisme blessé serait à restaurer. Et ensuite, on constate qu'il y a une ligne extrêmement claire qui est dessinée par ce gouvernement, qui est le fait que ce qu'on a appelé le projet de capture de l'État par l'extrême droite chrétienne fondamentaliste, à la fois intellectuelle et en même temps technocratique, qui travaille en particulier auprès du projet 2000-2025 à entièrement reprendre l'État américain, non plus seulement pour le détruire, mais pour en faire un instrument de son pouvoir. Ils sont surreprésentés. Il y a à ce jour 8 membres du projet 2000-2025 qui font partie de ce gouvernement. Donc, à la fois une espèce d'auberge espagnole avec des présentateurs de télévision, des patrons de l'industrie du cash, des représentants de l'industrie crypto, beaucoup de billionnaires, et en même temps, une assez grande cohérence, c'est-à-dire un ensemble de lieux de pouvoir qui veulent reprendre l'État américain pour mettre en place une politique véritablement réactionnaire, qu'il s'agisse de la défense, aux affaires étrangères, à la redistribution sociale ou à la justice. Et tout cela va vers une politique tout à fait inédite dans l'histoire des États-Unis.
Concrètement, quelle est l'idée principale qu'a mis en avant Donald Trump dans sa politique? C'est quoi? C'est une politique anti-immigration? C'est une politique économique qui vise à mettre moins d'impôts, plus de taxes, comme on l'a vu? Enfin, c'est quoi l'idée principale qui ressort de la politique de Donald Trump?
Je dirais que ce qui a fait l'essentiel de la philosophie de son programme, c'est un discours consistant à dire que la grande tradition de la démocratie libérale, auquel les deux partis politiques avaient apporté leur soutien, avec des institutions raisonnablement redistributrices, une démocratie représentative, modérément représentative, mais qui semblait fonctionner, que l'ensemble de ces institutions étaient en fait des faillites. Que cette espèce de balance des pouvoirs, que le respect des normes et des conventions s'avait amené la faiblesse fondamentale et la décadence de l'Amérique. Et donc, ce qu'il propose, c'est de se débarrasser de tout cela. Se débarrasser du partage des pouvoirs, du fait que la presse puisse avoir une liberté d'expression, que le Congrès puisse avoir son mot à dire sur les décisions qui sont prises, qu'il faille négocier avec les partenaires. Ce qu'il propose, c'est une politique de la force, du rapport de force, mais aussi de centralisation du pouvoir, dans laquelle lui décidera de quel budget sera alloué à quelle politique. Et que par cette espèce de volontarisme délesté des normes du droit et du respect d'un certain nombre de normes, il allait améliorer la vie des Américains.
Vous le promettez devant l'Amérique ce soir, en aucun cas vous n'abuserez de votre pouvoir pour vous venger.
Seulement le premier jour. J'adore. Il me demande, vous n'allez pas devenir un dictateur, n'est-ce pas? Et je lui réponds, non, à part le premier jour.
Il est illégal de déporter des millions d'Américains parce qu'ils sont basanés ou qu'ils ont des noms à consonance hispanique, parce qu'il faut d'abord que leur dossier soit étudié et que des agences spécifiques disent si on a le droit de les mettre dans des camions et de les renvoyer du côté de la frontière. Trump propose d'envoyer l'armée pour opérer des raids de millions de gens et les envoyer sans coup férir de l'autre côté de la frontière.
Il veut mettre fin au droit du sol. aussi.
Il veut réformer le 14e amendement des États-Unis, qui est sacro-saint dans la Constitution américaine depuis son adoption au lendemain de la guerre civile. On dit qu'il faut respecter les accords internationaux passés avec le partenaire des États-Unis. Il a désormais une relation qui est plus qu'une relation de pouvoir et d'autorité. Il a un désir de féodalisation du reste des puissances mondiales à la volonté des États-Unis. On dit qu'il y a des accords commerciaux, il décide qu'il va augmenter les taxes sur les produits d'importation chinois ou canadiens ou européens de 20, 30, 40, 50, 60%. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette idée selon laquelle il va être cette espèce de grande puissance qui, du simple fait de sa volonté, va changer la vie des Américains. Donc il y a comme ça cette espèce de fantasme de l'autocrate bienveillant qui se traduit dans son gouvernement, qui est avant tout un gouvernement de gens qui sont à sa solde et qui jamais ne contesteront ses désirs. Ce qui avait été le problème en 2016, c'est que beaucoup d'institutions et de gens dans son équipe lui disaient en permanence « Non, monsieur le président, on ne peut pas faire ça ». Là, il est entouré d'une cour renforcera cette idée selon laquelle la démocratie a été épuisée. Et ce qui est très ironique, c'est que le grand ennemi, parce qu'il faut toujours un ennemi pour souder la population, en particulier dans une idéologie d'extrême droite, qui est la Chine, est d'une certaine façon un petit peu le modèle inconscient des États-Unis selon Trump, c'est-à-dire un gouvernement hyper capitaliste, autoritaire, avec un parti qui contrôle l'ensemble du corps social et qui décide de façon très peu transparente de ce que seront les libertés civiques ou l'absence de libertés civiques, la politique économique, et qui contrôle l'ensemble du corps social. Il y a donc une espèce de fantasme de devenir chinois des États-Unis derrière cette idée que les États-Unis sont dirigés par un homme seul qui se débarrasse d'institutions complètement dévalué pour avoir derrière lui son peuple, son pays, ses institutions et son gouvernement.
Oui, on ne l'a pas dit, puisque Donald Trump devrait avoir les mains libres pour gouverner, puisque la Chambre des représentants et le Sénat seront acquis au Parti républicain.
Et la Cour suprême, qui est déjà acquise à Donald Trump et qui pourrait l'être encore plus s'il nommait des juges supplémentaires lors de son prochain mandat, ce qui est tout à fait possible. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait que le consentement à cet autoritarisme a semblé suffisamment solide en 2020 pour que les gens votent pour lui, et jusqu'à quel point il y aura une convergence de l'intérêt de la classe capitaliste, peut-être qu'on en reparlera, avec les plus fragilisés, les plus aliénés dans la population, pour soutenir cette présidence et lui permettre de mener à bien ce qu'elle a annoncé.
En fait, on est toujours dans cette idée qu'il véhiculait en 2016 « Make America Great Again ».
Oui, alors sauf qu'il y a une différence notable entre 2016 et 2020. Rendre la grandeur à l'Amérique, en 2016, c'était une espèce de discours un peu nostalgique. L'idée selon laquelle il y avait eu une décadence américaine depuis les années 60 et la démocratisation que le pays avait connue avec le droit de vote des minorités, avec les femmes qui accèdent au marché de l'emploi, avec un certain nombre de protections légales sur ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, un capitalisme relativement domestiqué. Donc il proposait de revenir aux années 50 et peut-être à la fin du 19e siècle, enfin disons à cet âge un petit peu mythique où les choses allaient mieux. Là, ce qui me frappe dans cette nouvelle candidature, c'est avec la présence de la Silicon Valley, d'Elon Musk, d'un certain nombre de gens qui viennent de cette espèce de nouvel écosystème d'extrême droite, crypto, technologico, interneto, je ne sais pas très bien. C'est une espèce de techno-futurisme qui propose aux Américains de se projeter dans une espèce de dystopie où l'ensemble des régulations apporterait la libération et l'émancipation du peuple. Un exemple très clair, c'est la surreprésentation de spéculateurs venus de fonds de capital risque et de fonds de pension parmi les membres du gouvernement. Pendant très longtemps, par exemple, les grands responsables de l'économie américaine, nommés par la droite comme pour la gauche, c'était les grands banquiers, les grandes banques traditionnelles, Goldman Sachs, etc. Là, ils nomment des gens gens qui sont de purs spéculateurs. Son ministre du Trésor, qui s'appelle Scott Bessent, a travaillé pendant 25 ans pour George Soros, dont le titre de gloire est d'avoir, par la spéculation, brisé la livre sterling dans les années 90. Il a des spécialistes de crypto parmi ses grands responsables des agences de régulation du commerce dans les relations économiques. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il s'agit pour ce nouveau capitalisme un petit peu gangster, un petit peu rebelle, d'intégrer une nouvelle parole selon laquelle Internet, la crypto, cet espace de la virtualité où il n'y aura plus aucune règle, simplement le rapport de force, l'état de nature, apportera la libération. Et Elon Musk, évidemment, est la grande figure de tout cela, c'est-à-dire faire main basse sur l'argent public, déréguler, pouvoir lui-même créer une monnaie qui n'est pas la monnaie de l'État, un président qui n'est pas soumis aux règles de l'État, et une espèce comme ça de... Ils sont très fascinés par la science-fiction, hein, par une espèce comme ça de gouvernement de l'extrême droite du futur qui donnerait l'idée que l'Amérique serait complètement libérée si la pure liberté telle que les libertariens l'avaient fantasmée était réalisée. Et cet aspect techno-futuriste me semble tout à fait nouveau.
D'ailleurs, on l'a vu, le Bitcoin vient de passer la barre des 100 000 dollars, notamment grâce à l'élection de Donald Trump. Justement, avec tout ce que vous venez d'expliquer, en France, on a tendance à dire que ce qui se passe aux États-Unis va arriver en France. Est-ce que c'est déjà le cas? Ou est-ce que les idées, ce que représente Donald Trump, va un jour arriver en France à travers peut-être, je ne sais pas, le Rassemblement national?
Je crois fondamentalement, comme historienne des États-Unis, que les ressorts des trajectoires des pays sont fondamentalement nationales. Et que, oui, on peut établir des analogies entre les extrêmes droites du monde entier, et incontestablement, elles travaillent elles-mêmes à constituer une internationale de l'extrême droite globale qui se retrouve dans certains lieux de pouvoir. Mais il est frappant de voir que Donald Trump, par exemple, est très inspiré par ce qu'a fait Viktor Orban, arrivé en pouvoir bien avant lui. Donc il y a une antécédence, d'une certaine façon, à la fois de l'Italie berlusconienne, de la Hongrie, de Orban. Mais il est certain que le travail de reconquête de l'hégémonie culturelle, on pourrait dire, par l'extrême droite américaine, depuis 30 ans, ça n'a pas attendu 2016, nourrit l'extrême droite française et l'extrême droite européenne parce que elle est extrêmement efficace. Et que s'il n'y a pas en France et en Europe cette conjugaison extrêmement particulière aux États-Unis d'ultranationalisme, de religiosité à nul autre pareil, et la façon dont cette espèce de messianisme à la fois séculier, c'est-à-dire les gens de la tech ne sont autres que des évangéliques qui pensent qu'ils vont sauver la planète et à accéder à la toute puissance de l'Amérique blanche et chrétienne, c'est très américain. Et par ailleurs, il y a une histoire raciale et une histoire de cet entremêlement entre le capitalisme comme grande source de l'émancipation et l'idée selon laquelle la race blanche est prédestinée, on en avait parlé précédemment, prédestinée à diriger ce pays et que toute remise en cause de cette logique historique qui accorde la puissance aux natifs, est une atteinte à ce qu'est être américain. Donc certainement que l'Europe et la France regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Certainement qu'il faut, pour les forces de gauche, comprendre que ce qui fait avant tout le succès de ces forces d'extrême droite, c'est l'effondrement des partis de centre-gauche. Et que ça, c'est un enseignement qui est répété, qui est une régularité dans l'histoire, et qu'il faut méditer tout autant que la source du succès de Donald Trump, la raison pour laquelle l'espace politique qui fait que tant d'Américains aujourd'hui auraient pu trouver une autre parole d'émancipation que celle de la réaction, a été incapable de se rendre hospitalière. Et donc, il est certain que la façon dont le travail politique profond fait par l'extrême droite américaine n'a eu en face d'elle qu'une incapacité du Parti démocrate à comprendre à quel point la structure économique et sociale du pays était celle d'une population qui était à prendre. Et elle n'a pas su, elle, apporter les réponses adéquates.
Il faut une gauche qui ne sait de rien.
D'une certaine façon, ou en tout cas qui comprennent que les grands ferments de l'adhésion classique de ce qu'on a appelé pendant très longtemps le peuple de gauche ne sont jamais acquises. Et que la détérioration et la dégradation de la qualité de vie des gens, c'est quelque chose qui se paye politiquement. On a beaucoup dit que les États-Unis étaient la population la moins politique qui soit. Et c'est vrai que dans les années 1990, alors que la croissance américaine sous Clinton était insolente, le peuple américain était extrêmement dépolitisé. Les taux de participation aux élections étaient inférieurs à 50%. Et ce que la gauche n'a pas vu, c'est l'extrême repolitisation des Américains depuis les années 90. Alors même que les partis politiques et les grandes institutions traditionnelles où les gens pouvaient se retrouver pour partager une tradition, une parole politique, étaient complètement discrédités. Plus de syndicats, plus d'associations locales, un parti démocrate qui est devenu le parti du capital et des puissants. Et donc, ce désir de repolitisation, il a été dans les lieux qui étaient disponibles. Internet, le militantisme d'extrême droite, les églises évangéliques, certains lieux de parapolitisation comme, les jeux vidéo en ligne, le catch, le sport, et que cette repolitisation, elle a été saisie de façon extrêmement pertinente par ceux du Parti républicain qui se sont présentés comme les dissidents, comme ceux qui n'appartenaient à aucune tradition, les pirates de la politique. C'est ce qu'a fait Donald Trump. Donc, si on ne comprend pas qu'il y a la traduction d'une souffrance sociale dans un désir de repolitisation, si on pense toujours que les gens restent chez eux et qu'ils ne votent pas et qu'il ne faut pas s'en soucier, on court le risque de ne pas voir que le désir et la repolitisation, elle va toujours quelque part. Voilà. Donc, reste à savoir si les institutions de gauche ou les lieux où la parole de gauche peut s'exprimer sont à la hauteur de cette parole à prendre.
Alors, que peut-on attendre de la politique internationale de Donald Trump, notamment sur le génocide en cours à Gaza? On sait que Netanyahou souhaitait la victoire de Donald Trump. De ce que l'on voit, c'est que Donald Trump est extrêmement favorable à Israël. Alors, que peut-on attendre de sa politique? Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il compte faire?
On ne sait pas encore véritablement ce qu'il compte faire, mais il est très clair que ce gouvernement compte en son sein un nombre extrêmement important de militants en faveur de l'extrême droite israélienne et qu'il représente cette tradition extrêmement importante des évangéliques sionistes qui sont un pilier extrêmement important de l'extrême droite soutenant Donald Trump. Il y a un certain nombre de personnalités depuis Tulsi Gabbard qui est la patronne de la CIA, le ministre de la Défense, alors tous ces gens doivent encore être confirmés par le Sénat, hein, donc on est encore dans l'attente de leur nomination, mais enfin en tout cas elles ont été choisies. Le ministre de la Défense, Pitexek, dont vous avez parlé, qui a dans son livre de mémoire, il a été soldat en Afghanistan et en Irak, expliqué à quel point il fallait mener une croisade morale contre l'islam et qui a été surpris en état d'ébriété, expliquant qu'il fallait tuer tous les musulmans et que la Palestine n'existait pas. L'idée que la Palestine n'existe pas est aussi quelque chose qui a été prononcé par le ministre qui sera, enfin la personnalité qui sera l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui s'appelle Mike Kaby, qui est un très très grand militant de la recolonisation des territoires occupés et bien sûr de Gaza. Un certain nombre de personnalités dans l'entourage proche, parmi les ambassadeurs, sont des gens qui, y compris le Hongrois qui s'appelle Gorka, qui est un ancien de l'extrême droite hongroise, qui fait partie des services d'intelligence, qui lui aussi a expliqué qu'historiquement, la Palestine n'existait pas. On est donc dans une logique extrêmement claire de soutien à la politique la plus annexionniste, la plus brutale et la plus génocidaire. Ce qui, d'une certaine façon, est un petit peu paradoxal, puisque Joe Biden a été sans doute le président qui a été le meilleur allié de Netanyahou depuis le début de cette guerre génocidaire. Mais certainement, il y a dans cette volonté de surtout en aucun cas ne se sentir tenu par l'outrage international, par, bien sûr, le tribunal pénal international, l'amoncellement de rapports donnent substance à l'idée d'un nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. On sait qu'avec Trump, aucune de ces indignations internationales et de ces condamnations juridiques n'auront de prise. Dans le même temps, est-ce que Donald Trump veut s'engager dans une guerre de très long terme au Moyen-Orient? C'est aussi peut-être le paradoxe.
Il a une image quand même de non-interventionniste et de... en tout cas, au Moyen-Orient, on a le sentiment qu'avec Donald Trump, ça sera moins pire qu'avec Biden.
Ce qui est certain, c'est qu'il ne veut pas engager à nouveau les États-Unis dans des guerres impériales, ce que les néoconservateurs du Parti démocrate comme du Parti républicains ont fait. Et ce qui est intéressant dans ce gouvernement, c'est qu'il y a 3 anciens soldats de carrière. Et c'est quelque chose qui n'a pas été assez relevé, qui est que J.D. Vance, le vice-président, Tulsi Gabbard, la patronne de la CIA, et Pete Hegseth, ministre de la Défense, sont 3 personnes qui ont passé 20 ans de leur vie sous l'uniforme en Afghanistan et en Irak. Et que ces 3 personnes, plutôt que d'être des avocats des guerres impériales, du fait qu'il fallait lutter contre les dictateurs, récupérer le pétrole et aller fabriquer de la démocratie dans ces pays, sont 3 personnes extrêmement critiques de ce que George Bush a fait en Irak, des guerres en Syrie, de ce que les généraux ont imposé à la population américaine. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans un esprit de croisade civilisationnelle, mais en même temps, ils se défient de l'élite de l'armée américaine qui aurait perdu le pays. Et donc, on est dans une espèce de fabrication un petit peu monstrueuse où ils veulent mener la croisade, mais ils ne veulent pas que les soldats américains mènent concrètement la croisade sur le terrain. Donc, on peut penser que ils vont soutenir, comme l'a fait Biden, par procuration, le gouvernement israélien, mais pour qu'il, pardon, mais c'est la formule qu'ils utilisent, qu'ils finissent le boulot au plus vite. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun des garde-fous contre la recolonisation de la Cisjordanie, l'expulsion des Palestiniens, que sais-je, en Égypte et dans les territoires, et le fait que le drapeau israélien soit planté sur tous les territoires auxquels les Palestiniens ont droit. L'idée serait sans doute qu'en quelques années, peut-être même en quelques mois, cette guerre soit terminée, c'est-à-dire que le martyr de Gaza et des Libanais deviennent un état de fait avec des traités et l'idée selon laquelle Israël est désormais ce grand Israël que souhaite Netanyahou. Mais il faut certainement, du point de vue de Trump, que cette affaire soit rapidement réglée pour ne pas continuer à financer cette guerre pendant des années.
Ce qui est sûr, c'est, comme vous venez de le dire, c'est que Donald Trump soutiendra Netanyahou et soutiendra la politique israélienne menée à l'encontre des Palestiniens. Alors, avec tout ce qu'on vient de dire sur Donald Trump, vous l'avez dit, on essaye de le faire passer pour ce bouffon, celui qui contrôle pas grand-chose quand il est au pouvoir en 2016. Il y avait beaucoup de gens qui disaient autour de lui qu'il faisait n'importe quoi. Mais on a quand même le sentiment, au final, que Donald Trump, c'est peut-être le meilleur candidat du capitalisme.
Alors, c'est certain, à la fois oui, et en même temps avec peut-être une petite nuance. C'est-à-dire que ce que montre Donald Trump, c'est la tension extrêmement forte au sein de ce qu'on pourrait appeler la classe capitaliste. On va utiliser le vieux jargon un peu marxiste. C'est-à-dire que, rappelons quand même que Kamala Harris a réussi à récolter davantage de milliards de dollars que Donald Trump. Et que donc, traditionnellement, la classe capitaliste américaine, qui ne met jamais ses œufs dans le même panier, finance tout autant le Parti démocrate que le Parti républicain. Ce qui est particulier, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que il y a des divisions, des fractures au sein de la classe capitaliste américaine. Il y aurait 2 catégories de capitalistes. Il y a ceux pour lesquels le système des démocrates néolibéral Clinton, puis Obama, puis Biden ont laissé se développer, c'est-à-dire le creusement insensé des inégalités, de la redistribution des classes populaires vers les élites. Ce système marche très bien pour eux. On peut dire les anciennes élites de Wall Street, les grandes banques, l'industrie de la croissance verte, les panneaux solaires, la voiture électrique, etc. Et puis, il y a une catégorie du capitalisme américain, les industries fossiles, la tech, les fonds de pension privés, le capital risque, la crypto, qui sont un petit peu, j'appelais ça tout à l'heure le capitalisme pirate, c'est-à-dire des gens qui ont comme principal problème le fait que, alors qu'on est dans une perspective historique de croissance très faible et de ralentissement de la productivité et des profits, cherchent des nouveaux territoires de conquête de façon extrêmement agressive. Et eux, ce qui les gêne véritablement, c'est la régulation, les normes, la contrainte de l'effondrement de la biosphère, qui est évidemment un problème pour eux, et l'idée qu'il existe un certain nombre de choses que le capitalisme aujourd'hui ne peut pas faire. Et donc, on retrouve dans cette espèce d'appareillage capitaliste autour de Donald Trump, depuis Elon Musk jusqu'aux grands pétroliers et à l'industrie gazière, des gens qui veulent utiliser l'État à la fois pour piller le bien public à leur avantage, pour déréguler et s'assurer que il n'y ait plus de contraintes du droit, des normes, qu'il s'agisse des normes environnementales, de la protection du droit du travail, etc., mais aussi de pouvoir utiliser l'État de manière autoritaire pour réguler l'ensemble de l'économie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une espèce de devenir chinois, c'est-à-dire qu'on a à la fois des libertariens qui veulent détruire l'État, et en même temps, ce sont un peu des néo-mercantilistes qui veulent que l'État soit fort pour mener une politique en leur faveur. Et ce qui est certain, c'est que Donald Trump va donner l'illusion aux Américains que ce nouveau capitalisme libertaire, mercantile, nouveau, va être la source de leur émancipation. Et que l'État est à la fois l'ennemi et la panacée. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Certainement, les prochaines années vont être des années de croissance économique sous stéroïdes, de croissance artificielle, de capitalisme spéculatif fondé sur la crypto, sur les rabattements fiscaux, sur l'idée qu'on va continuer à arracher de plus en plus de pétrole et de gaz de la Terre. Mais c'est un court terme. Et donc, la question est de savoir si, sur le long terme, cette espèce de capitalisme insurrectionnel, comme ces insurrectionnels du Parti républicain, nous font entrer dans un nouveau régime de prédation, ou bien est-ce que c'est juste là une espèce de dernier sursaut de cette classe capitaliste qui, face aux limites planétaires, à l'effondrement de la confiance de la population dans ces institutions-là, essaye de prendre ce qu'elle peut tant qu'il est encore temps. Est-ce qu'on est dans un changement de paradigme ou dans une espèce de pillage à courte vue? C'est dans les prochaines années qu'on le saura.
Eh bien, c'est très bien. C'est comme ça qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup, Sylvie Laurent, d'être venue.
Merci à vous, Yanis.
Et puis, à très bientôt.
À bientôt.